vacarme.
L'animal est-il un humain comme les autres?
Laurence Di Félix, Raphaël Bouchet.
Des milliards d'animaux sur Terre sont assujettis, consommés, massacrés par les humains, ces prédateurs suprêmes qui réduisent et polluent aussi au passage la planète sur laquelle nous cohabitons. Les animaux ne parlant pas nos langues, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Leur protection revient donc aux personnes qui sont sensibles à leur cause. Comme la fondation Tier Imrecht, qui milite pour une protection juridique forte des animaux depuis 1996, avec pour objectif principal l'amélioration de la relation humain-animal sur le plan juridique, éthique et social. Depuis 2003, en Suisse, l'animal n'est plus considéré comme un objet ou comme une chose dans le code civil. Mais faudrait-il accorder aux animaux un statut juridique à part entière? En tous les cas, dans les faits, l'égalité est encore très très loin. Nous sommes à Zurich, dans les bureaux de Tier Imrecht, où les juristes Isabelle Perler et Alexandra Spring dispensent leurs conseils aux personnes qui les appellent.
Stiftung für Tier Imrecht, mein Name ist Spring. Grüß Sie, Frau Müller. Oh je, meine, jetzt bei diesem Wetter schneit es bei euch auch so fest wie bei uns. Ja, das ist. Nein, also das ist ganz sicher nicht gesetzeskonform, wenn der Hund von eurem Nachbar jetzt im Moment auf dem Balkon ausgesperrt ist. Wisst ihr denn?
L'enfant pauvre du droit, Reportage Quentin Bollen, Réalisation Jean-Daniel Mottet.
Wie lange das schon draus ist?
La personne, elle a vu un souci dans le voisinage. Donc, apparemment, il y avait un chien sur un balcon. Et puis, on ne savait pas trop s'il était depuis longtemps là-bas ou c'était juste pour le moment. Et puis, là, ma collègue, elle a conseillé de contacter la police parce que cette personne, elle a déjà, elle est allée sonner et puis la personne n'était pas à la maison. Du coup, ça vaut la peine d'appeler la police pour qu'ils puissent aller regarder si quelqu'un est à la maison ou bien pour sauver ce chien. Parce que là, il y a de la neige et tout, donc c'est carrément une situation assez difficile pour sa santé.
Au niveau juridique, qu'est-ce que risque la personne qui a laissé ce chien enfermé sur son balcon?
Ben, normalement, là, il devrait suivre, si c'est effectivement pendant une longue période et puis que le chien était en danger, cette personne, elle risque une procédure pénale en matière de protection des animaux, parce que c'est soit la négligence d'un animal ou bien une maltraitance. Ça dépend.
Vous conseillez d'aller appeler la police? La police, est-ce qu'elle, vous pensez qu'elle viendrait, qu'elle interviendrait pour sauver ce chien?
Ben, les cas de protection des animaux, c'est des délits d'office. Donc la police, elle est obligée de réagir. Donc j'attends à ce qu'ils font ça, oui.
Stiftung für Tier Imrecht, Spring. Grüß Sie. Oha. Also, wie lange kommt es bei uns schon am Heim, weil es gefüttert wird? Seit 2,5 Wochen. Also, ihr habt es schon noch zwischendurch gesehen. Kommt schlafen, kommt es noch manchmal. Ah, auch noch manchmal.
Ça, c'est un cas qui arrive très, très régulier chez nous parce que c'est des chats qui sont nourris par des voisins. Ben là, apparemment, c'était une personne qui ne savait pas quel voisin, quelle voisine nourrissait son chat. Mais ma collègue, elle a conseillé que, ben déjà, elle pourrait mettre quelque chose sur le collier, un GPS pour savoir où va le chat. Comme ça, elle peut aussi chercher la discussion avec cette personne. Juridiquement, c'est très, très difficile à faire quelque chose contre ça. Mais si c'est vraiment régulier et puis que le propriétaire ne voit presque plus son chat, ça touche son droit à sa propriété. Du coup, il peut aller devant un juge civil et puis peut-être celui-là, il peut même interdire de nourrir ce chat. Puis après, ça peut aussi, dans quelques cas, c'est possible que c'est aussi pénal parce que ça peut être une appropriation illégitime ou bien une soustraction d'une chose mobilière. Mais c'est très très rare qu'on peut faire quelque chose là-dedans.
Soustraction d'une chose mobilière. Là, on a quoi comme rapport avec un animal?
Malheureusement, là, un chat, c'est considéré comme une chose. Ben, il n'y a pas une réglementation spécifique dans le code pénal. Du coup, c'est considéré comme une chose mobilière. Voilà.
Vous en avez beaucoup des appels comme ça, tous les jours, toutes les semaines?
Oui, on a tous les jours ces appels. On reçoit aussi plein de... Ben, on a un espèce de formulaire sur notre site internet. Par année, on a environ 1500 demandes dans ce sens, oui. Toutes les questions qui considèrent les animaux, ça peut toucher tous les domaines juridiques. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les propriétaires de savoir où on est. Puis après, il faut aussi dire que c'est un service qu'on rend gratuitement. Donc, je comprends que les gens, ils utilisent ça très volontiers.
Vous, personnellement, Isabelle Perler, pourquoi vous vous impliquez dans cette association?
Je pense que c'est très important d'utiliser ces connaissances juridiques pour des êtres vivants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Donc, c'est ça qui me motive. Ouais. Et puis, je vois tout ce qu'il y a à faire. Donc
vous êtes juriste, hein, oui, ça on le précise. Je peux poser une question à votre collègue donc, qui vient de répondre au téléphone. Je peux vous poser une ou deux questions par rapport à vous. Vous vous présentez juste en deux mots.
Je suis Alexandra Spring. Je suis aussi juriste et gardienne d'animaux.
Pourquoi, selon vous, les animaux doivent-ils avoir des droits?
Parce que ce sont des êtres vivants. Ce ne sont pas seulement des objets, comme beaucoup de personnes pensent que c'est un hobby ou quelque chose pour jouer pour les enfants. Non, c'est des individus qui ont des sentiments, qui ont mal, qui ont peur, comme nous aussi. Moi, je vois, ça sonne peut-être un peu extrême, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux. On a tous des sentiments, on veut vivre. Les animaux ne sont pas faits pour produire quelque chose à manger de l'animal. Non, ils sont faits aussi pour vivre comme nous. Et ils ont cet intérêt de vivre. Et en Suisse, ça n'existe pas.
Quatrième étage. Voilà, c'est là déjà qu'on arrive à notre bibliothèque. Là, il y a déjà tous les prospectus. Et puis, là, vous voyez tous ces bouquins. On a plus de 22 000 livres, essais, films sur la protection des animaux. Enfin, tout ce qui concerne la relation homme-animal.
Et vous vouliez, je crois, me montrer un article de loi du Code civil.
Oui.
Ça se trouve où?
Alors, c'est dans le Code civil, puis c'est l'article 641A. L'alinéa dit que les animaux ne sont plus les choses, mais après, s'il n'y a pas une disposition spécifique dans une loi, ils sont quand même traités selon les dispositions pour les choses. Donc,
c'est-à-dire?
C'est-à-dire que dans la majorité des cas, c'est toujours traité comme des choses, si vous voulez.
Donc ça veut dire qu'avant cet article du Code civil qui est entré en vigueur en 2003, mmh. Ça veut dire qu'avant ça, finalement, l'animal n'était pas doté de conscience, d'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est ça, exactement. Et puis si vous voulez, c'est toujours maintenant un petit peu comme ça, parce que vu qu'il y a toujours ces dispositions normales qui s'appliquent aux animaux, c'est un petit peu la même chose.
Isabelle Perler, on se dirige maintenant dans votre bureau, mmh. Où se trouve votre ordinateur, parce que vous vouliez me montrer les criminal cases, hein. C'est les cas que vous recensez justement d'atteinte juridique aux droits des animaux. Qu'est-ce que c'est ces criminal cases?
Alors, on a créé une sorte de base de données où on insère tous les cas, des cas pénals en matière de protection des animaux. Nous, on aimerait mettre la lumière sur ces cas, parce que sinon, ça reste un petit peu inconnu. On aimerait sensibiliser déjà la société. Ben, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Qu'est-ce qu'ils doivent vivre, les animaux? Après, on veut aussi montrer quels animaux sont concernés le plus, lesquels cantons prennent le plus au sérieux cette protection des animaux, comment sont les peines. Donc tous ces différents sujets, on aimerait mettre le doigt dessus.
Oui. Vous m'en montrez un alors en particulier ?
Ben là, je vous ai sorti un cas. Par exemple, il y avait une truie qui était dans une ferme. Et puis, à côté de cette truie, qui n'était pas de bonne santé déjà, il y avait même déjà des cadavres d'autres animaux qui étaient décédés depuis quelques jours. Le sol était plein de déchets. En plus, les animaux n'avaient pas de nourriture, pas d'eau. Et puis, comme j'ai dit, la truie était dans un état de santé tellement mauvaise qu'elle a dû être euthanasiée. Donc, vraiment grave, si vous voulez. Ouais.
Et quelle a été finalement la peine pour le propriétaire de ces animaux ?
Ben là, il y avait une peine pécuniaire de 60 jours d'amende à 30 francs. Et puis, c'était avec un délai probatoire de 2 ans. Et puis, en plus, il y avait une amende de 360 francs.
Comment ça vous fait réagir ?
Ben, je trouve, comparé avec ce que l'animal a dû vivre, c'est rien, en fait. Parce que si vous voulez, si dans la loi, c'est noté qu'il y a une peine privative de liberté de 3 ans en plus ou une peine pécuniaire. Donc... il aurait pu s'attendre à beaucoup plus que ça.
Donc il aurait pu, en gros, aller en prison pendant 3 ans, c'est ça ?
Il aurait pu, mais c'est presque jamais vu.
Pourquoi ce n'est pas appliqué, ce genre de peine ?
Ben, je pense que la loi sur la protection des animaux, ben, les infractions contre, c'est toujours pénalisé par les autorités. Donc c'est pour ça qu'il y a ces peines assez bas. Après, c'est aussi la question si les procureurs qui traitent ça, est-ce qu'ils ont une formation assez... spécifique pour appliquer la loi comme il faut. Parce que je pense pour eux, c'est toujours un domaine un peu secondaire comparé à tout ce qu'ils ont à faire à côté. Ben, normalement, il y a environ 2000 cas par année.
Ça, c'est finalement que la surface de l'iceberg, si j'ai envie de dire, vu que pas tout n'est...
Tout à fait, oui. Et puis si, nous, on aimerait voir beaucoup plus de cas. Parce que pour nous, ça montre que les autorités, ils prennent au sérieux le droit sur la protection des animaux. C'est pas que si un canton a beaucoup de chiffres, qu'on dit « Ah, là, il y a beaucoup d'auteurs des crimes, des délits ». Non, c'est parce que les autorités, ils font leur travail.
Et comment expliquer que les autorités ne fassent pas forcément bien leur travail ? Qu'est-ce que c'est le problème ?
Je pense déjà, c'est la mentalité dans la société. C'est juste un animal, donc c'est pas très grave. Donc déjà, ça aussi, ça va influencer les peines. Mais après, c'est un souci de temps et puis de moyens, je pense, des autorités. Ils n'ont pas les ressources qu'ils devraient avoir pour traiter comme il faut ces cas.
Madame Tsanger ?
Ah oui.
Je suis au bel endroit ?
Oui.
Ah, oui, ok. Bonjour madame, Quentin Bollon.
Ah, Tsanger, enchantée. Oui, oui, merci.
Ah, on est accueilli par un chien ici ?
Oui, oui, c'est mon chien.
C'est votre chien ?
Oh, oui, c'est mon chien. Pipa.
Anna Tsanger, on se trouve dans des magnifiques villas ici. On se trouve exactement
dans les villas du Beauchet de Clarence. C'est des villas qui ont été sauvées. Enfin, deux villas ont été sauvées par Franz Weber à l'époque.
Donc on se trouve finalement dans les locaux de la Fondation Franz Weber.
Oui, la Fondation Franz Weber et la Fondation Helvetia Nostra.
Quelle est la différence entre les deux ?
Elles sont liées, intimement liées. Helvetia Nostra était conçue pour être le bras armé de la Fondation Franz Weber avec le droit de recours et donc les possibilités d'agir en justice.
Et ça se fait souvent, ça, concernant le droit des animaux ?
Ça se fait relativement souvent. On est plus actif actuellement dans la protection du paysage, mais ça arrive qu'on doive aussi le faire pour les animaux.
Anna Tsonga, vous êtes aussi avocate dans une étude. Vous vous occupez justement de la protection des animaux, du droit des animaux. Est-ce que vous avez beaucoup de cas en ce moment? Vous travaillez sur quelque chose?
Non, j'ai personnellement, en tant qu'avocate, très peu de cas de protection des animaux, même si je me suis spécialisée dans ce domaine.
Pourquoi, selon vous?
Je pense qu'ils ont un peu honte, des fois, d'aller voir un avocat. Et puis, il faut avoir des moyens financiers aussi pour voir un avocat, pour faire valoir des droits sur des animaux.
Honte, pourquoi honte selon vous?
Disons que l'expérience que j'ai, c'est que souvent c'est traité, des cas qui sont en lien avec les animaux sont souvent traités un peu de manière anecdotique et puis considérés ouais, comme quelque chose d'un peu moins important, ou en tout cas on considère les gens comme des amoureux des animaux qui font des questions de principe, et puis des fois ça les ridiculise un peu, donc ils ont un peu de la peine à s'engager dans ce genre de cas.
Comment c'est vu ça par les autres avocats du barreau?
Mais ça dépend, il y en a qui sont ouverts d'esprit, qui partagent mes convictions, qui partagent mon engagement, et puis il y en a d'autres qui justement voient ça un peu comme quelque chose de moins important que le droit de la propriété, que l'aménagement du territoire, ou alors les contrats, enfin voilà. C'est un peu l'enfant pauvre du droit.
Concrètement, le dernier cas que vous avez eu, où vous avez dû justement aller plaider au tribunal, c'est tel quel, ou bien quelques cas que vous voulez bien me raconter, vu qu'il semble en avoir assez peu au final?
Alors j'ai eu des cas, par exemple, où quelqu'un voulait importer un animal domestique et qui avait été saisi à la douane, et du coup il voulait que j'intervienne pour pouvoir libérer cet animal. J'ai eu des cas où c'était des animaux qui s'étaient fait maltraiter et donc une personne en avait eu connaissance et m'a alerté sur le cas et voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour dénoncer le cas, à qui, etc.
Peut-être de façon générale sur la loi sur la protection des animaux, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ici en Suisse?
Donc c'est une loi qui protège les animaux, le bien-être et la dignité des animaux, qui réglemente la manière de traiter les animaux, de les détenir, de les transporter et aussi de les mettre à mort. Donc l'idée fondamentale de la loi et sa structure sont bonnes, mais à mon sens, il y a des points qui sont plus totalement en adéquation avec l'évolution de la moralité aujourd'hui. La notion de bien-être et la notion de dignité sont définies dans la loi, mais même avec cette définition, on a encore une assez large marge de manœuvre. Un exemple qui est souvent évoqué, celui de la séparation des veaux avec des vaches peu après la naissance dans les exploitations agricoles. On peut se demander, est-ce que vraiment, véritablement, c'est conforme à la dignité et au bien-être des animaux? C'est des mammifères, donc on arrive bien à comprendre leurs émotions, ou en tout cas s'imaginer quelles émotions elles pourraient avoir, et on voit que c'est quand même une détresse chez les animaux. Alors, les agriculteurs vont vous dire que c'est nécessaire et que c'est une manière rationnelle et raisonnable de traiter les animaux, mais d'autres milieux vont vous dire, ben, vu que ce qu'on sait maintenant des capacités cognitives et émotionnelles des vaches, ben, c'est pas forcément adéquat. Donc je dirais qu'il y a une interprétation assez large de ces principes fondamentaux qui varie selon l'époque, qui varie selon la région aussi. Même au sein de la Suisse, on sait que selon où on est, on a une appréciation différente de ce que c'est le bien-être animal. Et ça mériterait peut-être d'être un petit peu mieux défini pour éviter une discrépance dans l'interprétation.
Mais mieux le définir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache ce que les animaux ressentent, ou si justement quelle sorte d'intelligence ils ont, ça? Comment on peut le faire?
Alors je crois, je suis pas biologiste, je suis seulement avocate, mais je m'intéresse au sujet, et je veux dire qu'il y a quand même de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent, bon, on le sait, pour les grands mammifères, des capacités cognitives, des ressentis émotionnels, des interactions sociales, des liens sociaux presque familiaux, par exemple pour les éléphants, c'est assez fou, les liens sociaux qu'ils tissent avec leur famille quand ils sont séparés de leur famille, ça crée une vraie détresse émotionnelle, un stress, une dépression. Donc, pour certains animaux, je veux dire, c'était clair déjà il y a 20 ans, c'est de plus en plus clair. Pour les animaux de compagnie, les chiens, les chats, je crois que personne ne doute que, en tout cas, personne qui a un animal de compagnie ne doute du fait qu'ils ont des états d'âme, ils ont des émotions, etc. Il y a certaines espèces où, évidemment, la question est plus difficile parce qu'on a moins de points de repère. Mais il y a eu des études récemment publiées par la Confédération qui démontrent que, probablement, les poissons aussi ressentent, si pas des émotions, au moins les émotions de base, la peur, la douleur, etc. Donc, même ce qu'on pensait avant, les animaux qu'on pensait n'avaient strictement aucune émotion, on se rend de plus en plus compte que c'est le cas en fait.
Vous parlez d'émotions, de sentiments, est-ce que c'est ça qui doit déterminer justement les droits des animaux ?
Disons que c'est un. Il peut y avoir plusieurs niveaux de protection des animaux. Je pense que de faire du mal à un animal. Qu'il ait ou pas un système nerveux central, qu'il ait ou pas des capacités cognitives supérieures, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Maintenant, la hiérarchie entre les animaux qu'on fait comme humains depuis la nuit des temps, c'est très difficile d'en sortir. Parce que justement, est-ce qu'une moule a vraiment les mêmes... on doit la considérer de la même manière qu'un gorille ou qu'un chien. Et puis moi, je n'ai pas la réponse. Mais je pense que le droit doit pouvoir différencier entre quand même les différentes sensibilités des animaux.
Mais d'ailleurs, dans la loi fédérale sur la protection des animaux, il est spécifié que le Conseil fédéral détermine à quel invertébré elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers. Donc, tous les animaux, justement, ne sont pas logés à la même enseigne et c'est dit dans la loi.
Oui, absolument. Ben, c'est ce que je vous disais. Je pense que, vu notre compréhension actuelle des sensibilités animales, on n'a pas trop le choix que de faire des différences dans la loi. Maintenant, il doit y avoir une base de protection pour tous les animaux. Ça me paraît évident. Mais les invertébrés, évidemment, est-ce qu'un escargot vraiment peut être considéré de la même manière qu'un autre animal, c'est une question difficile. Mais la loi doit se pencher sur ce genre de questions difficiles. Et le régime légal le plus logique pour actuellement, c'est le régime légal qui est applicable aux choses. Par exemple, dans un divorce, comment est-ce qu'on règle la question du chien ? Alors, traditionnellement, c'était un objet comme un autre qu'il fallait répartir entre les époux. Mais de plus en plus, on voit une évolution aussi dans les cas de divorce où il peut y avoir une sorte de garde partagée, finalement.
Donc ça évolue, mais finalement, le statut juridique de l'animal à part entière, ça, on n'y est pas du tout encore, on est d'accord ?
Non, on n'y est pas encore.
Est-ce qu'il faudrait y arriver selon vous ? Est-ce que ce serait quand même le but ultime ?
Selon moi, oui. On peut accorder aux animaux un statut sans que ce soit exactement le même qu'un être humain. Et ça, ça serait déraisonnable d'accorder le même statut à un animal qu'à un être humain, simplement par le fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans une langue qu'on comprend. Donc ils ne pourraient pas venir au tribunal expliquer leur position, par exemple. Donc il y a plusieurs auteurs, des professeurs de droit qui se sont penchés sur cette question à travers les âges. Et puis notamment un certain professeur Christopher Stone aux États-Unis, et il estime qu'en fait ce qu'on pourrait faire, c'est octroyer aux animaux un statut équivalent à celui d'une personne incapable de discernement, un petit enfant par exemple, ou une personne qui aurait perdu la raison. On leur institue un curateur, un tuteur qui va les représenter en justice, mais pour leur propre bien.
Vacarme.
Donc actuellement, ce qu'on fait souvent avec la nature en général et les animaux, c'est que finalement, on les protège pour quelqu'un d'autre. On protège l'environnement, mais pour pouvoir continuer à vivre correctement dedans, par exemple. Alors là, ça serait l'idée de protéger l'animal pour lui-même.
C'était L'enfant pauvre du droit, un reportage signé Quentin Bollen. Hyperactivité, hypersensibilité, voire dépression. Dans l'épisode 3, on verra qu'un animal comme le chien peut présenter des troubles psychiques qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au nôtre.
Là, les chiens, même s'ils ne parlent pas, ils communiquent. Donc on arrive bien à lire si un chien est bien dans ses baskets ou bien au contraire s'il est anxieux. Un chien se lit, donc vous avez des mouvements, des mimiques, vous avez des positionnements du corps, vous avez des mouvements de la queue, comment il se comporte avec son maître. Et ça, il faut les mettre en évidence et faire comprendre ça au propriétaire.
Vacarme, une émission de Raphaël Bouchet et de Laurence Di Félix. À découvrir le dimanche dès 13h sur le Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous nous aimez, dites-le autour de vous. Et si vous voulez nous le dire de vive voix, notre numéro, c'est le 058 134 134 0. On écoute la suite.